J'ai le grand plaisir, je remercie les organisatrices de ce colloque de m'avoir donné cette possibilité de présider cette première partie d'après-midi sur le thème émancipation et espace de l'intime. Et je voudrais juste remarquer, faire deux toutes petites remarques avant de laisser la parole à nos intervenantes, c'est que si on parle d'émancipation, enfin quand on pense à ce titre, hein, émancipation et espace de l'intime, eh bien émancipation suppose de désigner évidemment les espaces, les lieux de domination, d'oppression potentielle, et ça nous amène, et c'est ce que montre ce panel d'ailleurs, vous allez le voir, de penser à différentes échelles spatiales, différentes échelles temporelles, différentes échelles sociales, différentes échelles, dur à dire, différentes échelles psychiques, moyennant quoi, du coup, espace aurait pu, pourrait, doit s'écrire au pluriel, y compris parce que il mobilise la question de l'intime, là encore, avec différentes dimensions, et que on voit bien que cet intime et les frontières de cet intime ou des questions de l'intimité, qui est un concept qui est intéressant mais qui nous échappe en permanence, est configuré par les objets qui vont être ici traités et mobilisé par les objets en question, la musique, les espaces urbains et la manière dont ça fait parler les corps et dont les corps se rassemblent à des espaces particuliers de la ville. Les vêtements, les attitudes, les tactiques de survie au quotidien dont nous parlera notre collègue, mais aussi la manière dont les disqualifications du terme féministe peuvent, dans le cadre camerounais, intervenir et affecter aussi l'identité et donc l'intime, l'intimité, la conception intime de soi lorsque l'on est féministe et que ça devient ou ça persiste en tant que terme disqualifiant. Donc enfin, c'est toutes ces dimensions-là qui sont à croiser à différentes échelles d'espace et de temps, transnationales aussi, que l'on va aborder de manière transversale avec notre panel. Et je vais passer la parole pour commencer à Charlotte Grably, qui va nous parler de l'avant-garde des sociétés d'élégance, danse, mode et bouleversement des normes de genre à Brazzaville et Léopoldville dans les années 1950. Des choses qui semblent anecdotiques et qui ne le sont en rien. Voilà, je vous cède la parole.
Merci beaucoup pour l'introduction. Donc oui, je vais vous parler des associations congolaises de danse et de mode qui étaient très puissantes à Brazzaville et Léopoldville dans les années 50. Donc ces deux villes étaient l'une la capitale du Moyen Congo français, donc Brazzaville au nord du fleuve, et au sud, face à elle, Léopoldville, qui était la capitale du Congo belge. Donc c'était deux villes qui étaient beaucoup plus connectées qu'aujourd'hui. Les échanges étaient incessants et les citadins des deux rives partageaient une culture commune en dépit de contextes politiques très différents. Dans le Congo français, qui était perçu globalement comme beaucoup moins raciste que le Congo belge, l'idée de citoyenneté africaine permettait aux Congolais de formuler certaines revendications depuis 1945, tandis qu'au Congo belge, la vie politique était complètement censurée jusqu'à la veille de l'indépendance, jusqu'à 1957-1958. Donc, en revanche, sur le plan économique, Léopoldville était beaucoup plus développée, y compris dans le domaine musical, et c'est ce qui a favorisé l'essor de cette culture associative féminine dont je vais parler. Donc pour le faire, je vais m'écarter du thème de la prostitution auquel on les associe le plus souvent pour m'intéresser à leur place dans le monde musical, à leur créativité et pour essayer de voir comment les logiques de plaisir et les logiques politiques s'imbriquaient dans les espaces de sociabilité, en particulier dans les bars qui étaient très importants dans les quartiers ségrégés. Je le fais de cette manière parce que selon moi, cette approche est la meilleure pour comprendre comment ces collectifs, qui n'étaient apparemment pas féministes, ont permis la transformation des rapports entre les sexes dans la ville coloniale et aussi la production de normes alternatives, y compris transgenres. Donc ces associations se baptisaient elles-mêmes Société d'élégance. Elles héritaient de la tradition associative féminine qui avait débuté dans les années 30. À Brazzaville, elle avait d'abord été encouragée par les missions religieuses. À Léopoldville, il y avait d'autres modèles, en particulier celle des femmes de fonctionnaires ouest-africains. Les fonctionnaires ouest-africains venaient du Sénégal, du Dahomey, donc du Bénin, du Togo, du Cameroun. Et ils formaient une petite élite dans les villes congolaises à l'époque. Au fil des années 40, ensuite, les associations qui pratiquaient l'entraide mutuelle, l'entraide économique, se sont diversifiées. À côté des sociétés d'élégance, il y avait par exemple des associations de femmes enceintes ou de jeunes mamans qui se réunissaient elles aussi dans les bars. Et là, il y avait cette question de l'intime aussi et de son inscription publique. Toutes ces associations jouaient un rôle très important dans l'intégration des femmes à la vie urbaine, en particulier des migrantes des villages qui venaient de s'installer en ville ou bien qui faisaient les allers-retours entre les régions et les villes. Alors, les sociétés d'élégance tiraient leur pouvoir des relations qu'elles entretenaient avec des acteurs masculins clés de l'économie musicale. À Léopoldville, surtout, elles ont développé des modes d'organisation qui permettaient à ses membres de se soustraire à la tutelle de l'administration coloniale. Elles se faisaient représenter par un homme qui endossait la fonction honorifique de président, comme ici le président Pius, mais qui en réalité leur servait plutôt de prête-nom pour ouvrir des comptes épargne où étaient déposées les cotisations des membres. Ce qui était nécessaire pour qu'elles réunissent de l'argent. Donc leur économie était fondée sur leur collaboration avec les musiciens que j'ai pu rencontrer à Kinshasa en 2014 m'ont tous expliqué que le succès de leurs concerts dépendait largement de la présence de ces associations sur les lieux. C'est pourquoi ils composaient des chansons en leur honneur. L'association brazzavilloise La Violette a beaucoup été célébrée dans la chanson et il reste comme ce titre de Cabacélé des traces. En l'occurrence, cette association était l'attraction principale du bar Chez Fagnon, devant lequel elle pose avec le patron du bar. Et c'était un bar très célèbre pour les orchestres des deux rives qui s'y produisaient. Alors, parallèlement, elle passait aussi des contrats avec les vendeurs de pagne. La société d'élégance La Taille, qui défile dans le magasin de Papa Dimitriou, qui était un grec, qui était également le patron d'une grande maison de disques et qui collaborait avec les puissantes brasseries de Léopoldville parce que la fabrique de la bière au Congo belge était très importante. Et on voit ici, on aperçoit les bouteilles de bière au pied des mannequins qui sont en train de défiler et qui sponsorisent la soirée. Donc, dans un contexte où les femmes qui prenaient part à la vie musicale avaient longtemps été stigmatisées, ces défilés, comme ici avec le guitariste Franco qu'on voit en arrière-plan, qui est devenu la star de Loquet Jazz, toutes ces performances publiques féminines n'étaient pas anodines. Dans les années 20, la police coloniale suspectait notamment les femmes qui participaient à des danses de couple de se prostituer. Jusque dans les années 40, beaucoup de femmes préféraient pratiquer leurs danses régionales ou même les danses de couple qu'elles pratiquaient entre elles, comme ici, à l'abri du regard des passants, dans les cours des passerelles. Et il y a un exemple significatif qui est donné par Suzanne Sylvain Comer, qui observait en 1945 à Léopoldville qu'elle rencontrait des danseurs et des hommes jouant dans des orchestres dans tous les endroits où les rues s'élargissaient, mais qu'elle n'avait jamais vu, ou une fois seulement, danser des femmes à tous les coins de rue, et c'était le jour de la libération de Bruxelles. Donc ce rapport étroit entre mode, danse et émancipation commence à apparaître à la fin des années 50 dans la presse sous la plume de Suzanne Freitas, qui était la toute première femme journaliste et je crois la seule du Congo belge. Dans l'un de ses articles où elle dispensait généralement des conseils de mode, généralement plutôt conservateurs, elle profitait par exemple d'un passage où elle critiquait ce qu'elle appelait le supplice du tressage, le supplice du tressage traditionnel des cheveux, pour glisser cette phrase. Nous devons nous décider à nous débarrasser de toutes les choses inutiles qui peuvent nous empêcher d'être libres et nous faire souffrir. Alors c'est une phrase très simple, mais qui tranchait avec l'article, ce sujet de la mode et qui avait certainement un écho particulier dans le contexte politique de 1958, parce qu'à cette date, Patrice Lumumba faisait sa campagne anti-impérialiste dans la cité et était notamment soutenu par les associations de danse et les associations féminines qui faisaient sa propagande, la propagande anti-impérialiste et panafricaniste. Donc on voit qu'au moment de la décolonisation, la mode, et plus particulièrement la coiffure, devient le premier support pour faire valoir des pratiques de la liberté et ainsi définir les formes acceptables de l'existence des femmes dans la société politique. Donc c'est une phrase qu'on peut également comprendre à la lumière d'un entretien que Suzanne Freitas a donné l'année passée. Elle parlait des tensions entre le mariage qu'elle considérait comme une vocation et l'accès au salariat pour les femmes qui avaient besoin de demander l'autorisation à leur mari pour travailler. Et donc elle disait, une fois mariée, elle n'était pas encore, la seule liberté que je demanderai à mon mari sera de pouvoir continuer à écrire des articles dans les journaux. Le journalisme est une profession que j'adore. Ces différents exemples qui montrent les usages de la mode participaient en même temps d'une transformation profonde des normes de genre dans les villes congolaises. C'est ce qu'on voit dans un article de 1956, qui est une archive assez rare, intitulé « Un cas étrange, un homme-femme à la cité ». Il parle d'un créateur de mode qui est apparemment très réputé selon l'article, et qui auparavant s'appelait Joseph et qui se faisait désormais appeler Marie-Josée. Donc voilà ce qu'en disait le journaliste. Le reconnaître monsieur, c'est se créer des ennuis avec lui, car Joseph n'aime jamais qu'on sache qu'il est un homme. À en croire les bruits qui circulent dans son quartier, il a été plus d'une fois arrêté par l'administration qui l'empêchait d'endosser les tenues féminines. Mais hélas, nanti d'une bonne politique commerciale, il n'a pas hésité à expliquer à l'administration qu'il préférait cette tenue parce qu'il voulait porter lui-même les mabayas, donc c'était les blouses des femmes portées par les femmes, dont il est le seul à concevoir les modèles. Il fait même partie d'une de ces associations de femmes que nous voyons se réunir tous les soirs dans presque tous les bars de la cité, pas en qualité de Tata Mokonsi, donc de président, mais simplement de membre ordinaire comme toutes les autres femmes. Donc, c'est apparemment en se distinguant comme créatrice de mode et surtout en intégrant des sociétés d'élégance que Marie-Josée a pu affirmer une identité transgenre dans des espaces aussi hétéronormés qu'étaient les bars de la cité indigène de Léopoldville. Sa réputation lui a aussi apparemment permis de tenir tête à l'administration coloniale en jouant avec une notion de publicité. Là, on ne sait pas exactement quelle est la part de rumeur, mais on comprend qu'il avait un pouvoir social important. Tout dans cet article laisse penser que c'était un cas de figure inédit dans les villes congolaises. Moi, dans l'historiographie, l'exemple le plus proche que j'ai trouvé, c'est celui qui est donné par Xavier Livermore à propos de l'Afrique du Sud, mais seulement dans les années 2000, où il observe que les associations d'entraide sud-africaines, qu'on appelle là-bas les Stokvel, intègrent fréquemment un membre queer, en général pour ses tenues extravagantes et pour les soirées et pour tout ce qu'il pouvait apporter du point de vue de la mode. Donc la deuxième chose intéressante, c'est d'analyser la perception du travestissement par le journaliste qui le décrit. Donc il dit « Ce monsieur, déguisé en femme, ne présente plus aucune apparence des personnes de son sexe. Tout comme les jeunes femmes célibataires, il aime fréquenter les bars tous les soirs, danser, sourire, plaire et charmer. Il n'a ni la voix d'homme, ni la voix de femme. Et nous demandons quel plaisir monsieur Joseph éprouve-t-il donc en se travestissant de la sorte, abandonnant ainsi sa femme et surtout ses deux gosses. » Donc là, si on s'intéresse à la voix, c'est intéressant parce que c'est la voix qui lui permet de dire les ambiguïtés, le trouble que l'expression d'homme-femme, qui est dans le titre, n'arrive pas à restituer. Cette expression d'homme-femme, elle vient peut-être d'une traduction du Wolof, Gourjigen, qu'on emploie au Sénégal pour désigner péjorativement les homosexuels et qui veut dire littéralement homme-femme. Il est en effet possible que cette expression ait circulé dans les milieux de la mode à Brazzaville, qui était dominée depuis les années 20 par des hommes sénégalais et des hommes dahoméens, donc du Bénin. Ce qui suggérait que les normes de genre, en tout cas les désignations, se forgeaient à partir des circulations dans l'Empire français. Donc je vais terminer en évoquant ce que ne dit pas l'article et qui me semble révélateur vu la photographie. La légende sous la photo dit « l'homme-femme prend un verre avec deux amis », mais à aucun moment le journaliste n'évoque la manière de poser de Marie-Josée qui porte sa main sur l'épaule de son voisin. La question transgenre n'est pas rapportée à celle de l'homosexualité, ce qui signifie peut-être qu'on ne condamnait pas les hommes d'apparence hétéronormée qui étaient ouverts aux relations homo-érotiques, et ce qui est le cas apparemment aujourd'hui encore en RDC, où ces pratiques sont tolérées tant qu'elles ne dérangent pas l'ordre familial. Et d'ailleurs, la seule chose que le journaliste condamne explicitement, c'est l'abandon du foyer par Marie-Josée. Donc voilà, pour conclure, si les sociétés d'élégance ont bien contribué à l'émancipation des femmes et à la transformation des normes de genre, c'est en ouvrant des espaces où le rapport de force avec le patriarcat pouvait s'inscrire visiblement dans l'espace public. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Charlotte. Je profite, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'une de nos intervenantes, en l'occurrence Aïda Barkat Daoud, s'excuse de ne pouvoir être avec nous cet après-midi. Donc nous avons de fait trois interventions successives et non quatre comme initialement prévu. Néanmoins, je tiens la montre, quoi qu'il en soit, et je ne repartage pas le temps restant. Ça laissera plus de temps de parole, et je respecte les consignes qui m'ont été données. Je passe donc la parole à Cécile Assilien, qui nous vient de l'Université du Kansas et qui constitue l'intervention anglophone du panel, avec pour titre « Filmic Representation of Gerunds as a Survival Mechanism for Women in Haiti ».
Bonjour et merci à toutes et à tous, particulièrement aux organisateurs et organisatrices. Je sais que ce colloque est le résultat de beaucoup d'heures de travail et, comme on dit en créole haïtien, aïbobo. Je commence, parce que la technologie, il faut toujours avoir plan B, parce que je veux être sûre que je respecte la montre. Je commence de common Haitian proverb, femme sépotomitan pays d'Haïti, means that Haitian women are the center pole of society. The potomitan is the central pillar where the dancing takes place and where the loise descended upon an individual during a voodoo ceremony. Oops, je vois. Okay, c'est bon. Attends. Okay, parce que I wanted to make sure you see the term gérance because it's a Creole term and this is one of the theory I'm using in my work. So the potomitan is during the vodou ceremony where the loi descends upon an individual and thus the proverb femme c'est potomitan pays d'Haïti emphasizes at once the centrality of voodoo within Haitian life and the fact that women are seen as the fulcrum around which it turns and without which it could not take shape. On the one end, to describe women as potomitan is accurate because they do indeed form the backbone of the informal economy, which includes micro-level vendors, small and medium-sized enterprises, and street vendors selling foods, clothes, and other items. Many women create sustainable livelihoods in this way. On the other hand, however, the notion of women as potomitan formalizes a burden put on them by the patriarchal society to always be strong and accept even the most difficult challenges without complaint. While I don't have time to elaborate here, I will note that Haitian sociologist Sabine Lamou analyzes the problematic of the potomitan and her work in detail. Women in Haitian culture are not merely silenced victims who do not advocate for themselves. Nevertheless, economic, social, and political insecurities that take shape within the global context at the intersection of class, gender, and the cultural and economic capital that structures labor markets make them vulnerable. However, moreover, Haitian and diasporic women, particularly from the US, Canada, other Caribbean islands, and more recently Brazil and Chile with the Haitian migration there, live within a culture that fails to protect them from sexual violence. The prevalence of rape culture, coupled with the precarious economic condition in which many women find themselves, is really dramatic and problematic. Particularly in the aftermath of the 2010 earthquake, which killed over 200,000 people, hundreds of women were victims of gender-based violence, as the earthquake exacerbated already precarious situation. I'm using the concept of gérance to convey the complex gender dynamics and the patriarchal weight of Haitian culture, as well as how women negotiate these complexities. The term gérance is the noun form of the verb gérer, and you'll hear French, but it's written in Haitian Creole, which means to manage. It's like the système D en français. It refers to everyday survival strategies and the ingenuity that people use in order to obtain basic necessities such as food and lodging, given the difficult economic situation. The term also alludes to sexual transaction. In the interest of time, I'll only specifically talk about one film, and the film is titled Cousine. However, in my larger project, I talk about other films. One even have the title Jérim Chéri, which means manage me, honey. There's another one, Facebook Player. There's all these in my larger project, which follow the same type of Nollywood type of film. So really, I'm looking at Haitian popular culture. All these films depict women living the concept of gérance and the problems that can arise when they're not able to manage gérance. Jessica, and again, the click is not showing, but in the interest of time, I won't, but you can go look at the trailer online. Cousine takes place in Port-au-Prince, and it's the story of two women who's using their sexuality to survive, to gérer, and you'll hear me use that term a lot. The experience of the women portrayed in the film is best understood in terms of intersectionality, which provides a vital mode of exploring social inequalities. Cousine briefly tells the story of Jessica, a young woman who lives with her cousin Maggie in a middle-class home in Port-au-Prince. Jessica's father, who lives in New York and works as a nurse, regularly sends money to Jessica's cousin. But Jessica's world is shattered when Maggie tells her that her father has died of a heart attack. Jessica then learns that the father had no savings and his friends had to pay for his funeral. Because of the unstable economic situation in which Maggie lives, she's pressured by her live-in boyfriend Gisner to throw Jessica out. As Maggie tells Jessica, and I quote, "C'est Gisner qui a mené l'argent dans Kaila." It is Gisner who is bringing money into the house. Money equals power. Thus, from one day to the next, Jessica becomes homeless and must find a way to survive. In desperation, she turns to her school friend, Joanne, who agrees to welcome her into her home. To make ends meet, Joanne is using her body in order to have financial independence and stability. The fact that Joanne has her own apartment is already a taboo. In Haiti, it's not generally culturally acceptable for young women to live by themselves, especially as they will be considered not being from a good class, and financially they also cannot afford it. So Joanne already living by herself is a problem, and it is seen as an anomaly. It is a way for her to be independent and gérer the various men who are part of her sexual and transactional exchange. The exchanges between Joanne and the men who come to her house are not specifically characterized. Joanne is not a sex worker per se. The film uses the term prostitute, but out of respect, and we know a lot of work that has been used, I'm not using that term prostitute. Transactional sex is taking place, in which there are sexual and material benefits that are exchanged between individuals, but none of whom are commercial sex workers. There are relationships between the parties that may be short or long term. The film does not provide details as to how much money or how many other material goods Joanne received from this transaction. But it is clear that they enable her to have financial independence. She has interactions with at least 5 men that are similar to dating, but she does not appear to be attached to any of them. Joanne is represented as being charming and intelligent. She's also fascinating and appealing to the men in the film because she chooses the men with whom she interacts. In fact, one of them even asks her to marry him. All the men are of a certain class and financially able to support her. Many of them ostentatiously demonstrate their wealth. At one point, Joanne has a party at her house, and all of them are there, and they show up in expensive cars. It's not clear whether they all know that they are her lovers. Haitian patriarchal structure encourages and even rewards men who have several sexual partners, and they are applauded as bon coq, good roosters, which has, of course, the term rooster, a whole sexual connotation. They also call players or macho men. Joanne performs gérance through her engagement and transactional sex. She's not merely a victim, however. She does have a certain degree of agency. She chooses her lovers and negotiates the transaction on her terms. She does have access to economic power and challenges the patriarchal norms to a certain extent. She's not necessarily depicted as a commodity in the film because she's not part of an established market. Rather, she has created her own sexual market that enables her to be economically independent. At the same time, however, the film depicts Joanne struggling with the emotional labor that these transactions demand. And it is underscore the fact that she has few options beyond selling sex. In a close-up scene with Jessica, she confesses that she, quote, chose to do this kind of work because the alternative would have meant staying in the streets. But while the film supports the idea that Joanne's sexual exchanges enable her to have some autonomy within the context of highly circumscribed choices, it is also judging her. For instance, Joanne is shown juggling the various men and managing them so that she can get the most out of them. In one scene, she asks a lover for money to buy her mother medicine. And in the next scene, we see her out shopping with Jessica. So she's thus represented as being frivolous and opportunistic. To its ambiguous portrayal of the value of transactional sex, the film pushes us to think about questions such as whether Joanne is having a true exchange with her lovers or whether it is a relationship that is simply abusive or opportunistic. The film's portrayal of Joanne is sometimes sympathetic as it shows her as someone who is a victim of the lack of economic resources for women. The men, for the most part, are depicted as using their economic power and status to be with Joanne. The difficulty of labeling Joanne's positioning derives from this complex dynamic. Is she a sex worker? Is she an autonomous agent who is using her body to gain financial freedom? This question speaks to the challenges that women face in the larger Haitian context, where they tend to have no clear path toward economic freedom. The film suggests that Joanne is a girée, a hustler, and I'm using the term as Patricia Hill Collins developed it, meaning a hustler who commodifies her sexuality out of necessity within the urban informal economy of Port-au-Prince. Her exploitation of men is a side effect of living in an economy that is dominated by men. And Jessica also, interestingly, although Joanne is protecting Jessica is also critical of her. So we see that Joanne does not embrace her non-normative sex life proactively. She struggles with the fact that the economic position in which she finds herself pushes her to adapt this lifestyle. She's not choosing to have lovers because she wants to be quote-unquote sexually promiscuous, but rather out of a need to survive in a capitalist society that does not provide women with meaningful opportunities to achieve financial agency and economic independence. Sex work provides Joanne with a certain level of empowerment, but even her limited degree of financial autonomy comes with a price in the form of judgment by society. She's able to think for herself within certain parameters, but her empowerment is severely curtailed. And in an ironic twist, and I'll just briefly explain this, the film shows Joanne having fibroid, which is in and of itself problematic. It's like, this is what happened to you. You may not be able to have a child. So there's a whole other paper that can be discussed from that, showing her as having fibroid. But Jessica must now use her body to find the money to pay for Joanne. So in a scene reminiscent and probably inspired by Indecent Proposal, we see Jessica in a hotel room having sexual relationship with an old man who had originally propositioned her at Joanne's party. And in the background, we have the television playing, and we see a new car that is coming on the market, echoing the transaction taking place on the bed. Jessica's body is ultimately just like any other commodity. And another interesting thing before I conclude is that Joanne and Jessica are also engaging with two diaspora from the U.S., who's using and flaunting their money. There is a joke among Haitians in the U.S. that say diaspora say ATM. Diasporas or ATM, alluding to the important economic support that the diaspora provide to Haiti, estimated to be over 20% of Haiti's GDP, and this is only officially. So just as the women depend upon men to be financially stable, many people living in Haiti depend upon the diaspora. Thus, women like Joanne and Jessica are representative of Haiti as a whole. Haiti here is symbolized by powerless women who are unable to manage and sustain themselves and are just waiting for the diaspora to save them. The various men who are Joanne and Jessica's lover are also representative of Haiti's class divisions. Those who have money can consume goods and women in excess, while those who have no purchasing power are limited. To conclude, by depicting the lives of Joanne and Jessica, who stand in for countless Haitian women, the filmmaker depicts Haiti's socioeconomic reality. Toward the end, the final scene, we have two men who have rescued Joanne and Jessica, their boyfriend, and we find them standing outside of Joanne's apartment with their arms around each other, smiling as if to say that they are now like any other couple, one man and one woman together. However, the two men also represent the fact that they are just another means by which Joanne and Jessica gère their situation. Thank you.
Merci. Je vais maintenant passer la parole à Jeannette Vaughen. Jeannette représente elle-même et sa collègue, Rosangeline Abissi, qui n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Mais voilà, Jeannette fera le boulot des deux.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais d'abord remercier les organisatrices de ce colloque et pour tous les efforts qui ont été consentis afin que nous puissions partager les résultats partiels de notre travail. Comme Madame la Présidente l'a dit tantôt, la présentation, j'aurais dû la faire avec ma collègue Rose-Angeline Abissi. Mais elle a été empêchée quelques semaines avant. Donc, je vais commencer par dire que cette présentation correspond à la première étape et donc la phase exploratoire d'un projet d'écriture sur la femme au Cameroun. Et l'appel à communication de ce présent colloque nous a donné l'occasion de commencer en principe par ce qui constitue dans notre projet, non pas le premier chapitre, mais le dernier. Et il fallait qu'on trouve une thématique ou un thème qui cadre avec le thème colloque des féminismes noirs en contexte impérial, histoire, expérience et théorie. Donc, notre propos est donc intitulé « Être femme et féministe au Cameroun ». Moi, je suis enseignante à l'université de Douala. Et c'est un problème, poser la question de ce que c'est qu'être féministe, c'est un peu osé dans notre environnement, mais nous nous sommes permises parce qu'on se dit qu'il faut quand même laisser quelque chose à la postérité, de faire un travail, de commencer un travail là-dessus, et nous espérons qu'il va aboutir. Donc notre plan de présentation est donc le suivant, nous avons d'abord une introduction, le matériel qui nous a permis de collecter les données ainsi que la méthode que nous avons utilisée, suivie d'un résultat et de la discussion et d'une conclusion. Je dirais que en contexte camerounais, la femme comme sujet de science a beaucoup plus été étudiée, a été peu étudiée en zone francophone. Mais quelques auteurs se sont démarqués en étudiant la femme dans les sciences sociales, la littérature et quelques-unes aussi dans l'académie. Parmi celles qui se sont intéressées à la figure, à la femme, nous avons Fatou Sow qui a fait le discours inaugural de cette conférence. Et c'était en lisant son ouvrage « Engendrer les sciences sociales » que j'ai commencer à m'intéresser à cet aspect de la femme, parce que la plupart de mes travaux portent sur la femme et la maternité, mais en lisant quelques chapitres de cet ouvrage, je me suis un peu plus intéressée à la femme en dehors de la maternité. Il y a également un autre auteur, pour ne pas dire une auteure, Tanela Boni, qui a écrit un ouvrage que j'ai également trouvé intéressant, « Que vivent les femmes en Afrique ?» Et dans cet ouvrage, elle fait le tour en parlant des nanabens, de la maternité, de la femme dans son environnement, dans ses environnements. Et le côté pluriel de la femme y a également été abordé. On a au niveau du Cameroun une littéraire, Flora Amabiamina, qui a produit un travail d'abord sur les femmes dans l'académie et par la suite un ouvrage qui donne la parole aux femmes, mais davantage aux femmes, aux termes que les femmes utilisent dans les chansons camerounaises. Et comme outil, nous avons, comme matériel, nous avons interrogé les femmes, les hommes, et comme méthode, nous avons utilisé l'observation et les entretiens. Au départ, nous avons inclus trois figures féminines qui occupent la scène politique, les maîtres Alice Combe, maître Michel Ndoki et Edith Kawala. Mais nous avons fait des entretiens avec ces trois figures. Mais comme au final, cette partie n'est pas vraiment axée sur l'angle politique, nous avons mis les informations collectées de côté, mais avons tenu à les interroger pour avoir, pas comme femme politique pour cette partie du travail, mais comme femme tout court, vivant dans un environnement multiculturel et multilinguiste. Et nous leur avons demandé à toutes ces personnes, c'était des jeunes dont l'âge était supérieur ou égal à 20 ans, et dont l'âge était, la moyenne d'âge était de 60 ans, de 65 ans pour les hommes et les femmes que nous avons interrogés. Les définitions des femmes étaient vraiment multiples. Mais la première qui nous a marqué, c'est celle qu'on trouve dans le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse nous dit qu'une femme est un être humain de sexe féminin qui est ou a été mariée. Et nous en avons été vraiment été surprises parce qu'on s'est dit, mais il est intéressant de comprendre. On parle de la femme, on parle de la femme. Simone de Beauvoir nous dit, on ne naît pas femme, on le devient. Mais voilà la définition que le dictionnaire nous propose. Et c'était vraiment une grosse surprise. Et en interrogeant d'autres personnes, la définition, l'une des définitions aussi était une femme est un être humain appartenant au genre féminin. D'autres ont dit une femme c'est un être humain de sexe féminin. Une autre qui est d'ailleurs docteur en linguistique nous dit une femme c'est une mère ou une épouse. Bah, c'était une autre surprise, mais je ne vais pas vous donner toutes les définitions parce que il y en a tellement eu que on s'est dit, on va prendre quelques notions qui nous ont marquées. La plupart des définitions étaient sur le plan biologique ou alors le plan social. Et pour d'autres, parler de la femme, c'est opposer la féminité et la masculinité, et donc parler des viragos. Et pour d'autres, une femme, c'est une question de vécu, et non une question d'ordre biologique. Donc, nous avons eu vraiment plusieurs définitions, autant pour moi, de la notion de femme. Et être féministe, c'était encore plus difficile, parce que pour quelques informateurs, être féministe, c'est s'engager à lutter pour les droits fondamentaux des femmes. Et pour un autre qui était dans la vingtaine, il dit être féministe, c'est vouloir tout faire comme les hommes. Et pour lui, il y a un problème que les femmes veuillent tout faire comme les hommes, mais pourtant, c'est un étudiant qui pense que la place de la femme, c'est à la maison. Et nous lui demandons, mais que faites-vous de vos camarades de filles? Il dit, pour lui, après leur licence, elles devraient arrêter de continuer à aller à l'école parce que leur place, c'est à la maison. Et la grande surprise, c'est toujours comment avoir une telle définition de la femme au XXIe siècle. Nous sommes donc au regard de ces définitions de la notion de femme, de la notion de féministe, intéressés au ressenti des femmes elles-mêmes. Et en termes de féminité, pour les femmes, il faut rester séduisante, il faut savoir plaire. Et en termes de féminisme, il faut lutter pour la défense des droits de femmes. Et sensibiliser les femmes à prendre conscience de leur existence, ne pas vivre la vie d'autres personnes, mais sa propre expérience à soi. Et au final, on se rend compte que pour certaines femmes, la femme féministe est une personne marginale, parce que pour elle, pour la plupart des personnes interrogées, l'idéologie féministe est née dans un contexte précis, qui est le contexte occidental. Et l'objet était de lutter contre le patriarcat et amener les femmes à s'émanciper et par la suite avoir un travail salarié. Et ce ressenti va au-delà de ce que nous avons dit précédemment et il faut absolument, au regard de ce que nous avons eu comme information, tenir compte de toutes les connotations qui entourent le mot féministe. Parce que Le mot féministe a tendance à présenter la femme comme une personne qui évolue en marge de la société en contexte camerounais, une personne qui veut affronter les hommes, qui veut occuper la place qui est celle des hommes, parce que la société n'est pas, la société camerounaise, on va dire, même si c'est un espace multiculturel, n'est pas pensée au féminin, mais davantage au masculin. Donc les femmes viennent bousculer en quelque sorte les habitudes ou alors un certain construit social qui voudrait que d'un point de vue traditionnel, que même au XXIe siècle on continue à confiner la femme à son rôle, à ses rôles on va dire traditionnels, être à la maison, s'occuper du ménage, et si elle a même une activité, cette activité doit être un prolongement de la cellule familiale, quel que soit son statut. Et ces femmes qui sont donc féministes, sont, d'après ces informateurs, des femmes qui détestent les hommes, des femmes qui veulent commander l'homme, Or, il ne s'agit pas ici de commander l'homme, mais de ne pas être partisan d'un féminisme castrateur, mais plutôt un féminisme qui peut, selon un autre informateur, renvoie à des équités, à des étiquettes, autant pour moi, qui ne sont pas souvent les réalités ou le vécu des personnes concernées. Et tout ceci et ce ressenti amène les hommes et les femmes à ne pas vouloir être féministes. Et ce refus de féministe s'explique par trois éléments majeurs: le poids du regard masculin, le poids de la société. Et dans le poids de la société, on a à la fois les femmes qui sont contre une certaine vision qui amène la femme à être au devant de la scène, parce que au lieu que la femme soit aux côtés de l'homme, elle doit plutôt être derrière l'homme. Et dans ce point, on trouve une fois de plus l'homme. Par ailleurs, les revendications ne sont pas toujours fondées sur des sont souvent fondées sur des idéologies qui n'ont pas une emprise réelle sur le vécu des hommes et des femmes. Et donc, le féminisme qui est assumé par les femmes, c'est, n'est-ce pas, être se trouve en dehors des rôles sociaux traditionnels. Et dans un tel contexte, celle qui n'a pas, par exemple, d'enfant n'est pas considérée comme une femme. Et dans d'autres communautés encore, il ne suffit pas d'avoir des enfants. Il faudrait que ces enfants soient des personnes de sexe masculin et non des personnes de sexe féminin. Donc, au final, la femme camerounaise n'a pas besoin de déviriliser l'homme pour accéder à ses droits fondamentaux. Sa féminité, elle doit la revendiquer comme une force, une intelligence et une capacité de résistance qui font pâlir d'envie l'homme ou les hommes en général. Et en conclusion, la femme continue d'être réduite, quel que soit son niveau d'études, à ses rôles traditionnels. Et la société camerounaise, au regard de ce qu'elle nous renvoie, est pensée, comme je l'ai dit plus haut, au masculin. Et la femme qui y est engagée, peu importe son champ, est une femme solitaire et à la limite marginalisée. Donc voilà en gros, brossé, ce que nous avons préparé et que nous avons souhaité partager avec vous au cours de notre présentation. Et je vous dis merci pour votre aimable attention.
Mesdames les organisatrices, à vous de nous dire combien de temps.
15 minutes.
15 minutes de discussion.
Je n'ai même pas eu besoin de faire le gendarme. Je vous remercie d'avoir tenu les chronos.
Merci beaucoup. J'ai une remarque, une question et un commentaire. La remarque pour Cécile, on a des choses équivalentes aux Antilles, alors il va falloir qu'on discute. Mais notamment, alors je suis contente d'entendre cette histoire de gérance, parce qu'en en Martinique, les jeunes hommes, quand ils sont en relation avec une ou plusieurs femmes, maintenant le terme qui est le plus utilisé, j'ai une doctorante, Joëlle Gabil, qui travaille sur ça, c'est Yoni en gérance. Ils ont une gérance, alors il faut. Donc je vois que ça peut être au féminin aussi, mais bon.
Bonjour, merci à toutes pour cette intervention passionnante. Donc ma question c'est pour Cécile. Cécile, I really enjoyed your presentation. En français, ok. J'étais très intéressée par la façon dont vous évoquez des termes comme economic freedom, financial independence, economic agency, et la façon dont votre lecture de film montrait comment en fait ces concepts qu'on associe souvent dans un système capitaliste néolibéral à l'émancipation, la libération en fait ce ne l'est pas. Et j'aimerais bien vous entendre développer un peu cette idée de gérance par rapport au concept d'agency. Du coup, qu'est-ce que la gérance nous montre, nous explique, complique notre lecture, notre façon de comprendre et d'assigner un concept comme agency sur des sujets différents.
Bon, je vais essayer de gérer la situation. Je vais répondre en français parce que c'est plus facile comme ça, tout le monde peut comprendre. Et puis, je vais passer un peu après en anglais. J'ai fait ma présentation en anglais parce que mes recherches sont en anglais. J'ai pas eu le temps de traduire. D'abord, commencer l'idée de gérance, ça vient du terme de gestion, un terme qui est très thème sur tout ce qui a à voir avec affaires, avec management. Et j'utilise le thème pour répondre à la question ou aux remarques de Stéphanie. C'est plutôt... Beaucoup d'hommes aussi en Haïti utilisent le thème gérer, surtout dans le contexte sexuel. Ah ouais, faut me gérer, mamzelle. Je dois la gérer, je gère plusieurs femmes. Et moi, c'est ma façon de déstabiliser le thème, que je l'utilise en théorie, que les femmes qui sont aussi en train de gérer, tout le monde gère. Et le thème est devenu un thème qu'on trouve dans le vocabulaire créole, très, très courant, qui gère qui. C'est aussi cette question, je suis très consciente de mettre un peu, de nuancer un peu le thème. En ce qui concerne votre question sur l'indépendance économique, justement, je crois que l'idée même de gérance rend l'idée de agency plus fluide et plus complexe. Et je voulais, j'ai beaucoup lu et je suis beaucoup influencée par le travail de Patricia Hill Collins. Les contextes ne sont pas pareils, mais les contextes, on peut les comparer pour parler de... Et ce qui est difficile dans les films populaires que je regarde, c'est justement cette notion, on ne peut pas dire que Joanne, c'est une prostituée, comme on utilise le terme dans le film, mais moi je préfère le terme sex worker, parce que justement par respect, on a même on a du mal à décider comment on va libeller Joanne. Et ça mais aussi cette question de respectabilité. Alors tout ça rentre en jeu avec cette fluidité du thème de gérance, parce que les hommes, eux aussi de leur manière, ils essaient de gérer leurs besoins, parce que parfois c'est pas que l'acte du sexe, c'est d'avoir quelqu'un qui va les écouter. Il y a une scène dans ce film où un diaspora qui vient des États-Unis, qui dit aux États-Unis, il est en train de vivre l'humiliation d'être migrant. Mais là, une femme est là qui le trouve beau. Il sait que c'est son argent. Or, ça permet à la femme d'avoir un peu cette idée de agency. Mais comme j'ai dit, c'est complexe parce que d'un autre côté, elle n'a pas vraiment de choix. D'où vient cette notion et le thème gérance montre cette fluidité.
Pour Jeannette, moi je suis. Merci beaucoup pour cette intervention parce que je trouve. Enfin, moi ça fait écho à ce que je disais aussi sur la Guadeloupe. Et alors la question c'est. La crainte là que les femmes dévirilisent les hommes, c'est marrant parce qu'en Guadeloupe, je la vois bien fondée sur le fait que l'histoire aurait dévirilisé les hommes par l'esclavage, la colonisation, et donc que les femmes sont censées les réparer et non pas les castrer une nouvelle fois. Mais est-ce que là, dans ce contexte, il y a des raisons, est-ce qu'il y a des explications à cette crainte de la dévirilisation? Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas moi, dans l'histoire, dans la culture, dans la religion, quelque chose en lien avec ça?
Merci pour vos questions. La première qui portait sur la dévirilisation des hommes, l'élément de réponse, on peut avoir plusieurs éléments de réponse. La première est que
les hommes ne sont pas nombreux à vouloir que la femme envahisse l'espace public. Il est bon qu'elle continue d'être confinée à ses rôles traditionnels. Et même lorsqu'elle doit travailler en dehors de la cellule familiale, il faudrait que ce soit des travaux qui sont ce que j'appelle le plus souvent un prolongement de ce qu'on fait souvent à la maison. Donc être en train de prendre soin des petits-enfants, comme être maîtresse, institutrice, être infirmière, mais pas médecin. Du moins, des tâches qu'on peut mettre entre parenthèses ou des fonctions qu'on peut se permettre d'appeler subalterne. Parce que l'exemple est que je sois habillée ou en jupe ou en pantalon, mes étudiants disent « Bonjour monsieur, oh pardon madame ». Donc dans leur subconscient, on va dire, il y a un construit qui les amène à croire que les femmes ne doivent pas ou ne devraient pas être professeurs d'université. Institutrice, c'est compréhensible, c'est bon. Donc, un peu comme si, parce qu'on est femme, on est moins intelligente que l'homme, et donc c'est lui qui est appelé à occuper ces espaces qu'on va dire publics. Mais on peut avoir vraiment, il y a plusieurs explications. Parce qu'il y a un doute, il y a une peur qu'elle n'abandonne ces tâches qu'on va dire traditionnelles. Parce que même quand vous n'êtes pas à la maison, lorsque vous avez des enfants, ce n'est jamais un homme que vous embauchez comme baby fada. C'est toujours une femme qui va jouer le rôle. Il arrive même qu'on vous appelle au téléphone, mais même étant ici, parfois on appelle pour dire « Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Mais pourtant, vous êtes à des milliers de kilomètres. Donc il y a, je pense, cette crainte-là que le travail dans certains secteurs ne nous empêche de jouer le rôle que la société et même la famille attendent de nous. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se faire de manière progressive, mais c'est à la femme de se démarquer, parce qu'il y en a aussi, mais je pense que la société camerounaise y participe. Il y a des femmes qui sont prêtes à ne pas travailler, mais maintenant, est-ce que ce que le mari gagne au regard de la crise sociale qu'il y a là-bas peut subvenir aux besoins de tout le monde? Non. Et celle qui se démarque gagne en confiance et sont plus libres de se déplacer parce que quoi, elles peuvent organiser la maison tout en étant absentes. Et quand elles réussissent, elles sont toujours appréciées par d'autres personnes. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse.
Merci. J'ai deux petites questions, si je peux me permettre. La première est pour ma Jeannette. En parlant du fait qu'en zone francophone africaine, nous sommes en retard par rapport à nos sœurs anglophones. Moi, je voulais savoir, parce que ça fait des années qu'on est en retard comme ça, parce que moi, je travaille sur le sujet et j'ai du mal à trouver des auteurs. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez comme académique et comme femme qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Parce que c'est, ou bien peut-être on devrait demander à nos sœurs anglophones pourquoi au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup des études féministes et, sur la femme et consort. Ça, c'est la première question pour vous.
Quant à la solution qui est celle d'avoir de la documentation dans l'espace francophone, cela s'explique par l'absence prolongée des femmes dans l'académie. À partir de quelle année est-ce que les femmes francophones des pays du Sud, principalement les pays de l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone, ont commencé à se retrouver à l'université? Au Cameroun, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais elles ne sont pas nombreuses avant la fin des années 80 à être dans différentes filières. Et quand elles sont dans ces filières-là, elles ne choisissent pas toujours des sujets qui portent sur les femmes. Moi, ma thèse a porté sur la maternité et les décès maternels au Cameroun. Je pense qu'avant moi, c'est une thèse qui a été soutenue en 2012. Avant moi, les femmes donnaient la vie, les femmes mouraient en voulant donner la vie. Les hommes sont dans les espaces universitaires, mais leurs problématiques ne sont pas les nôtres. Je pense que je suis plus sensible au problème de la femme. Enfin, les femmes sont majoritairement plus sensibles aux problèmes des femmes que les hommes. Donc, même s'il est sensible aux problèmes, il n'est pas prêt apporté le sujet. Moi, j'ai lu l'histoire des femmes en Occident, c'est Michel Perrault, et un homme qui ont écrit cet ouvrage-là. Mais il n'y a pas d'homme qui a décidé que, bon, moi, je vais m'intéresser au problème des femmes. Et c'est même à la suite d'un article que j'avais envoyé en expertise dans une revue française. On me l'a renvoyé en disant, mais vous parlez de la femme, de la place de la femme dans la société. Vous citez les auteurs occidentaux. Elles n'ont pas écrit dans ce contexte-là. Il est bon que vous nous citez des ouvrages où c'est une Africaine et au mieux une Camerounaise. Et c'est quand je suis allée recommencer ma revue de la littérature que je me suis rendu compte que, mais mon Dieu, dans les romans, il y a beaucoup de il y a plusieurs romans, il y a plusieurs personnages féminins, mais des documents en sciences sociales, il y en a très peu. Et c'est donc la raison pour laquelle ma collègue Yvette Balana, qui est littéraire, avons entamé ce projet, écrit un livre sur la femme au Cameroun. C'est quoi être femme au Cameroun? Et avec donc plusieurs chapitres parmi lesquels être femme et féministe. Donc je pense que c'est le retard des femmes dans les espaces universitaires qui explique cela. Et c'est, je dis toujours à mes collègues historiennes, anthropologues, sociologues, qu'il serait bon qu'on écrive des livres sur le quotidien des femmes parce que on est très nombreuses à être invisibles et on fait tellement de choses. Mais on passe inaperçu. Pendant les mariages, les femmes sont présentes, même si elles ne prennent pas la parole. Il y a des décisions qu'elles prennent, mais c'est l'homme qui a, en tant qu'autorité familiale, le droit de porter cette parole. Or, en les retrouvant à la cuisine, dans les marchés, dans les églises, si on veut, elles vont nous parler de leur vécu. Et à ce moment-là, on aura quelque chose pour la postérité. Si on veut vraiment que le problème, que si on veut que les autres sachent ce qui s'est passé avant, on copie les autres et puis on apporte des informations utiles pour que cela continue de servir ceux qui sont là et ceux qui viendront après nous. Merci.
Le deuxième, c'est pour Charlotte. Je voudrais juste savoir, dans vos recherches, il y a le concept de la SAP. Je ne sais pas si vous avez... Je veux savoir, je ne sais pas si c'est... je sais que vous faites dans les années 50. Je voudrais savoir si ça a commencé, ça existait pendant ces années-là, parce que c'est là où vous faites vos recherches. Et mon point de vue, c'est que c'est un mouvement artistique qui exclut les femmes. Alors, je suis curieux de savoir si vous pensez autrement, ou bien, voilà, je suis curieux de savoir. Parce que quand je vois ça aujourd'hui, bon, on appelle ça sapologie, c'est aujourd'hui, mais c'était à un moment donné. Si en ce moment-là où ça a commencé, ça, c'était inclusive ou exclusive. Merci.
Merci pour la question sur la SAP. C'est vrai qu'il y a eu un retournement de situation. Les femmes, ces groupes de femmes ont complètement perdu leur pouvoir, je pense, après la colonisation et après les années 60. Des groupes d'hommes élégants existaient déjà dans les années 50. Les plus grands orchestres comme l'African Jazz avaient à la fois des groupes de femmes et des groupes d'hommes, mais les groupes d'hommes n'attiraient pas vraiment la clientèle, et donc c'était pas vraiment ils avaient peu de pouvoir en comparaison des associations féminines. Et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi, mais il y a eu ce renversement et la SAP est devenue complètement identifiée aux hommes, à quelque chose d'exubérant, de burlesque, de lié à la culture urbaine congolaise, et les femmes sont passées en retrait. Et là où je vois les collectifs de femmes, c'est plutôt des groupes de danseuses qui sont derrière les chanteurs aérois, enfin plus aérois, mais les chanteurs de rumba, et qui sont plutôt passés dans un rôle subalterne. Et je sais pas ce qui s'est passé, parce que je connais pas bien la période postcoloniale, mais il y a eu vraiment un renversement, oui, de situation, et cette époque où il y avait des possibilités pour les femmes de commencer à parler, de repenser à partir de leur corps des nouvelles manières d'être en ville, elle n'existe plus vraiment, j'ai l'impression, dans l'espace public. Voilà.
Devons-nous considérer que c'est un message pour arrêter de parler? Je ne sais pas. Je vous remercie, mesdames. Merci au public pour votre attention, pour vos questions. Et nous allons continuer cet après-midi. Je crois qu'il y a une petite pause maintenant.